De retour sur RDWA, oula je suis très très fort, pardon, je vous fais cracher les oreilles. De retour donc sur RDWA 107.5 FM et internet www.rdwa.fr en direct de cette place du Mazel pour cette édition de la fête de la transhumance, le pastoralisme du chien. Et c'est une tradition, en tout cas dans notre studio mobile de la fête de la transhumance, d'accueillir l'ADEME avec Dominique Narbou. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pas que avec toi d'ailleurs, l'ADEME avec n'importe qui. Vous êtes un certain nom dans cette ADEME. Rappelle-nous un peu.
Alors, l'ADEME, on est une équipe de 5 et on travaille donc sur le pastoralisme drômois, sur tout le département de la Drôme.
Montagne et aussi dans la plaine.
Alors, plutôt montagne, dans la plaine, voilà, on y va moins. Le pastoralisme existe aussi en plaine, mais on est montagne.
Bon. Et alors, on va se dire un petit peu qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps, puisqu'on part du principe que vous connaissez maintenant, auditrice, auditeur, le fonctionnement de l'ADEME, qui est donc un organisme quand même professionnel, qui vient auprès des éleveurs uniquement, et pas du public a priori.
Ah si, on travaille à la fois pour les éleveurs, mais à la fois pour les collectivités territoriales. On travaille avec tous nos partenaires des territoires, que sont le parc des Baronnies du Vercors, la communauté de communes du Diwa et la communauté de communes du Val de Drôme, enfin tous les territoires.
Ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas a priori comme ça, en dehors de la fête de la transhumance, en interface avec un public qui n'est pas directement rattaché au pastoralisme.
Ah oui, on est spécifique au pastoralisme.
Voilà.
Oui.
Faut être dans ce métier-là pour avoir affaire à vous.
Voilà.
Allez.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps ? Eh bien, on a travaillé sur une enquête pastorale en 2012-2014. Et donc, il y a eu en 2016 l'analyse de cette enquête pastorale. Et donc, on s'aperçoit que sur la Drôme, eh bien, il y a 100 000 hectares de zones pastorales, dont un quart sont des alpages et trois quarts des zones pastorales. Et ces zones pastorales, ce sont à la fois des landes, des sous-bois et des parcours. Ça montre les différents pastoralismes drômois, c'est-à-dire la transhumance avec les alpages, mais aussi du pastoralisme local avec les exploitations qui restent en bas toute l'année.
Voilà, autour des villages, c'est ce que
ils
aiment bien nous rappeler. D'ailleurs, souvent les éleveurs, voilà, il y a quand même ce travail à la fois de protection incendie, mais aussi de façonnage des paysages autour des villages. C'est là qu'on le voit en premier, avant de monter en montagne, évidemment, pour voir des grandes prairies.
Tout à fait. Le travail des éleveurs participe donc à cet entretien du paysage. D'ailleurs, si on n'avait pas d'élevage et d'agriculture, l'ensemble des zones pastorales de la Drôme, enfin la quasi-totalité, serait de la forêt.
Les zones d'alpage, ce sur quoi vous travaillez quand même pas mal, l'ADEME, représentent donc, là j'ai déjà oublié le pourcentage.
25%, 25 000 hectares.
25 000 hectares. Et donc c'est principalement quoi ces alpages ? Quelles destinations ont-ils autres pour permettre la transhumance ?
Ces alpages, ils permettent surtout la transhumance. Sur ces alpages, au 15 juillet, il y a 63 000 brebis, 10 000 bovins, 8 500 caprins. Donc, pas sur les alpages, pardon. Là, j'ai dit sur l'ensemble des 100 000 hectares. Mmh. Toujours est-il que sur les alpages, il y a il y a beaucoup de brebis. Et dans ces 63 000, il y a 10 000 brebis qui proviennent des départements voisins, que sont le 84, un peu le 13, le 05, et voilà. Et en même temps, on a 20 000 brebis drômoises qui partent en Isère, en Savoie et aussi un petit peu en Ardèche, en Haute-Savoie.
C'est quand même rigolo. Pourquoi est-ce que les brebis drômoises ne restent pas en Drôme ?
Il y a toute une tradition. Donc les brebis drômoises, au tout départ, étaient surtout des brebis qui venaient compléter les troupeaux transhumants du Midi. Et donc, par exemple, sur Glandas, on a encore cette configuration où on a deux troupeaux du Midi importants qui sont complétés par trois troupeaux drômois. Et tout ça, l'ensemble de ces éleveurs travaillent ensemble. Voilà. Et pourquoi aussi par le passé, sans doute que les éleveurs transhumaient moins loin. Et avec l'augmentation du nombre de brebis par troupeau, eh bien, il y a des transhumances qui s'organisent de manière différente. Et après, traditionnellement aussi, il y a quand même des éleveurs drômois qui allaient en Savoie. Parce que dans la Drôme, on a la particularité d'avoir surtout des alpages secs et donc pas la possibilité de mettre des agneaux. Donc, nos troupeaux sont surtout des troupeaux de brebis à l'entretien. C'est peut-être un petit peu technique, mais ça veut dire qu'elles ont des besoins moins grands que les brebis qui sont accompagnées de leurs agneaux, qui doivent produire du lait pour les agneaux, et voilà. Et donc, ce sont surtout des éleveurs transhumants avec des agneaux qui partent dans les Savoies, parce que l'herbage est tout simplement meilleur.
Et ben alors voilà, ça faisait un moment qu'on vous avait à cette antenne, et ben ça je l'avais encore jamais entendu. L'autre chose c'est que l'ADEME, vous travaillez justement sur cette partie-là, la relation entre plusieurs éleveurs qui vont se mettre ensemble, oui. Face à donc des propriétaires, parce qu'on oublie, on n'a encore pas dit, mais ces 100 000 hectares appartiennent tous à quelqu'un.
Bien sûr, ces 100 000 hectares appartiennent à quelqu'un. Pour les unités pastorales, c'est-à-dire les alpages et les estives, il y a un grand pourcentage, je crois que c'est 2/3, sont communales ou départementales. Et par contre, pour tout ce qui est parcours, sous-bois, appartiennent très majoritairement au privé. À tout le monde, quoi. Voilà. Donc, effectivement, quand on se promène, on est toujours chez quelqu'un.
Bon, ça, on le savait, hein, la France, c'est un pays de propriété. Mais que deviennent ces espaces quand les brebis sont parties ?
La transhumance, enfin l'alpage, c'est une activité qui est saisonnière, qui va démarrer, dans le meilleur des cas, en situation basse, on va dire, au 15 mai, et puis qui va se terminer au plus loin, au 15 octobre, fin octobre, hein, puisque, en fait, la transhumance, c'est venir manger l'herbe, la ressource pastorale présente, ou ligneuse, hein, les arbustes, au moment où elle est là. Et quand on a terminé de la manger, eh bien, les troupeaux redescendent et retournent sur les sièges d'exploitation. C'est le fond de la transhumance.
Et donc après, ben, c'est là qu'on voit aussi des espaces devenir des stations de ski, bien broutées.
Oui,
bien belles,
alors...
Par exemple. Hein.
Oui, dans la Drôme, c'est surtout des espaces où vont se passer des activités de pleine nature, comme la randonnée, comme la chasse, comme toutes sortes de randonnées, hein, que ce soit VTT, à pied ou à cheval. Voilà. Et puis, ben, ces espaces, ils se préparent pour l'année suivante.
Il y a une vigilance ou une relation à créer entre tous ces utilisateurs des alpages.
Bien sûr,
bien sûr. Qui passe par l'ADEME aussi ou...
Alors, on y travaille. Hein, par exemple, à l'échelle du massif des Alpes, l'ensemble des services pastoraux travaillent sur la relation des activités de pleine nature avec le pastoralisme. Parce que
ce
les pastoraux,
du chien, par exemple,
voilà,
là,
avec ce problème de chien, mais pas que, parce que vous savez que les éleveurs, quand ils louent un alpage, ils ont une convention de pâturage dans laquelle cette convention de pâturage, elle est issue d'une loi qui s'appelle la loi pastorale de 1972, qui a prévu de faire les groupes d'éleveurs, les groupes de propriétaires et les conventions pluriannuelles de pâturage qui permettent de lier les deux. Et dans ces conventions de pâturage, elles sont très particulières, ça ne relève pas du bail rural, et il est permis d'avoir plusieurs activités sur un même lieu pendant une même période. En fait, l'objectif de ces conventions, c'était d'adapter la location à ces espaces qui peuvent avoir plusieurs vocations. Et donc, dans ces conventions, eh bien, on peut prévoir un certain nombre de choses sur... une aire d'envol pour des parapentes, je ne sais quoi. On peut tout prévoir, tout peut être écrit.
Et il est souvent dit que l'entretien de ces espaces incombe justement aux bergers et à ces brebis. Est-ce que le fait qu'il y ait une autre activité à côté qui puisse peut-être la dégrader, hein, je pense notamment à des randonneurs peu scrupuleux, qui est responsable à ce moment-là ? Est-ce que ça retombe sur l'utilisateur principal ?
La question de l'entretien des alpages et de leurs accès, c'est une question assez intéressante. Le troupeau va assurer, lui, un entretien en termes d'utilisation de la ressource et du fait de lui permettre de se renouveler de manière annuel, c'est-à-dire le troupeau mange et puis l'année d'après, il mange de manière à ce que l'an prochain, il y ait la même ressource, hein, puisqu'un éleveur, il revient, il va vouloir ça. Donc ça, c'est une première forme d'entretien. Souvent, l'éleveur a à sa charge aussi tout ce qui est d'entretien de l'abreuvement, de la clôture et de toutes ces choses-là, parce que c'est de son ressort, c'est ce qui est lié à l'utilisation de son troupeau. Le propriétaire du chalet, de la cabane de berger, lui, va être responsable de l'entretien du chalet, si le toit a un problème, si la neige a fait des dégâts, et ainsi de suite. Et là où il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est sur l'entretien des accès, où là, il y a un partage plus important de cette charge d'entretien qui peut être fait avec nos amis forestiers. Vous savez que les pastoraux et les forestiers, bah, c'est des gens qui sont proches parce qu'on travaille sur des zones difficiles de la même manière et qui sont souvent imbriquées. Donc, il n'est pas rare de voir des forestiers et des pastoraux créer, entretenir une piste sylvopastorale. Et aussi, l'activité chasse participe dans certains lieux à l'entretien de l'accès, hein, et aussi l'entretien des sentiers, parce que les chasseurs, ben voilà, ils vont prendre les sentiers et ils vont couper des branches. Après, localement, il y a aussi des associations de randonneurs qui vont se charger de l'entretien d'un sentier qui leur plaît beaucoup, et voilà. Mmh. Je crois qu'on est tous ensemble sur l'entretien de ces zones-là. Il n'y a pas. Les pastoraux sont très de nature très ouverts aux autres activités et depuis longtemps. D'une part parce que ils sont éleveurs, mais ils peuvent aussi avoir des justes, ils ont des produits à vendre, ils aiment communiquer sur leur métier. Mais aujourd'hui, on peut dire que la présence des chiens de protection qui est rendue obligatoire par le loup, par la prédation, met un petit peu à mal cette ouverture des pastoraux, parce qu'ils sont jugés responsables quand un chien de protection va agresser un randonneur. Et ce qui est vraiment très dommage, c'est que on comprend bien, et moi la première, je veux dire, se faire agresser par un chien, c'est très très violent et ça peut se terminer très mal. Mais en même temps, être jugé responsable de quelque chose qu'on impose aux éleveurs, ce chien, pour garantir leur troupeau, c'est aussi insupportable pour les éleveurs d'être responsable de ça. Parce qu'il faut aussi bien voir que le berger, quand il est en montagne, le chien, c'est l'ami le chien de protection, c'est l'ami des brebis, c'est le compagnon des brebis, ce n'est pas le compagnon du berger. Et le berger n'a pas toujours la maîtrise complète du chien de protection, contrairement au chien de conduite, qui est l'ami.
Il n'est pas du tout élevé, même.
Oui, on va dire que le chien de conduite, il est éduqué pour un travail, ça. C'est l'ami du berger, c'est le complice du berger, c'est celui qui va aider le berger dans son travail. Le chien de protection, il n'est pas éduqué, enfin j'emploierai pas ce mot-là, il est introduit dans le troupeau et il fait corps avec le troupeau, et du coup il est beaucoup plus difficile de prévoir son comportement, de voir ce qu'il va faire, parce que ça va dépendre s'il a été dérangé toute la nuit par un loup, ça va dépendre de beaucoup de choses, et ça c'est très difficile. Du coup, nous, l'ADEME, on aimerait, on travaille sur ce sujet-là. Il y a un programme, et je pense que vous aurez des compléments sur ces programmes à venir de travail où on aimerait aider à faire en sorte que tout ça se passe bien, parce que les pastoraux sont des gens accueillants et que loin de l'envie qu'il n'y ait plus de randonneurs dans les montagnes.
Oui, et puis tout simplement, aucun n'a demandé ce loup, on l'a bien répété, aucun n'a demandé non plus ce chien, peut-être que simplement ne plus l'avoir, ça réglerait
beaucoup de
problème. Oui. Alors je chope comme ça un autre sujet au passage, tu parlais des cabanes, Dominique, tout à l'heure, cabanes que vous avez recensées là dernièrement avec l'ADEME.
Oui, on a fait un inventaire des cabanes pastorales, dernièrement, sur le territoire. Et alors, la Drôme n'est pas un grand département avec beaucoup de cabanes. Hein. On en a recensé 63 dont 13 sont mobiles. Alors, depuis 30 ans qu'on travaille à l'ADEME aux aménagements pastoraux, on a fait beaucoup d'efforts sur les cabanes. Il y a beaucoup de cabanes qui ont été renouvelées. Mais on sait qu'il y en a encore pas mal à faire.
Quand on parle de renouvellement, c'est quoi autonomie alimentaire
On construit aujourd'hui une cabane bien équipée. C'est une cabane, une cabane en bon état. On va dire que c'est une cabane qui est isolée, qui a un moyen de chauffage, qui apporte de l'électricité au berger pour recharger son portable, pour s'éclairer. Souvent, c'est avec le solaire. C'est aussi une cabane où il y a au minimum 2 pièces pour avoir une pièce pour dormir, une pièce de vie. Il y a bien sûr un chauffage dans une cabane bien équipée.
De l'eau ?
De l'eau, bien sûr, de l'eau. Hein, et c'est... L'eau est une de nos difficultés. Hein. Vous savez qu'on est la Drôme en milieu karstique et que assez sec, en plus, une tendance méditerranéenne. Et l'eau est un des problèmes récurrents.
Elle reste pas sur le plateau, c'est ça. Il faut la stocker, faut la bloquer, quoi.
Voilà, il y a assez peu de sources et elles sont surtout toujours très basses. Mmh. Voilà. Donc ces cabanes, eh bien. On y a pas mal travaillé et il reste encore des choses à faire. Et la chose dont j'aimerais parler dans les perspectives, donc c'est continuer d'améliorer l'existant, c'est en construire. Je pense qu'on a encore une bonne dizaine de cabanes à construire sur le département de la Drôme, remplacer celles qui sont vraiment en très mauvais état ou celles où on a une caravane ou même une tente. Hein. Et c'est vrai qu'on aimerait, il y a des projets qui nous tiennent à cœur. On aimerait bien réussir la cabane des Trois Becs, hein, qui est donc sur la propriété départementale. On aimerait bien aussi continuer de faire des cabanes sur des zones en lien avec la prédation où il nous faut une cabane parce que sinon ces quartiers-là vont être abandonnés. Voilà.
Oui, c'était les questions que j'avais posées. Qu'est-ce qui bloque l'implantation d'une cabane ou pourquoi est-ce qu'on veut faire des cabanes supplémentaires? Voilà, parce qu'on identifie des lieux où il faudrait permettre aux troupeaux de se rassembler plus facilement.
Oui, il y a deux cas dans lesquels on a besoin d'une cabane. C'est rénover une cabane qui est en mauvais état. Donc voilà, soit la rénover, soit en reconstruire une à un endroit bien adapté en fonction de la pratique de sur l'alpage. Et puis il y a le cas de secteurs qui pourraient être abandonnés en cas de prédation. Et là, on a réellement de quoi faire.
Là, vous en avez relevé beaucoup, comme ça, des secteurs?
Oui, on a peut-être... dans les 15 cabanes à faire, il y en a les 3/4 qui sont liés à ce problème-là. Et pour pallier à ce problème aussi, et aussi pour s'adapter au contexte drômois, c'est-à-dire de petites estives et de parcours, on a travaillé avec le parc des Baronnies sur un projet de cabane mobile. Nos amis voisins du Serpam avaient fait un prototype de cabane mobile et donc le parc naturel régional des Baronnies provençales s'est lancé dans un projet de cabane mobile qui va permettre de suivre le berger. J'explique un petit peu. C'est sur ces espaces qui sont restreints en surface, le troupeau va rester 15 à 3 semaines sur un même espace et y construire carrément une cabane, c'est un investissement important.
Avec un entretien en plus.
Avec un entretien. Alors qu'utiliser une cabane mobile faite spécifiquement pour cette chose-là permet aux bergers d'être plus proches pour la prédation et donc de se déplacer. Alors c'est possible chez nous aussi parce que avec nos amis forestiers, on utilise beaucoup de leurs accès pour accéder à nos alpages.
Et donc, il faut une route forcément.
Il faut une piste forestière en bon état.
Ouais.
Hein, même si on peut emmener cette cabane avec un tracteur et qu'elle est conçue de manière à résister pour passer dans ces endroits-là.
Voilà, donc la question c'est que ce n'est pas une cabane qui est montée, démontée, c'est bien quelque chose qui est...
Qui bouge. Qui est mobile. Et en plus, dans ce projet-là, on a... penser, utiliser cette cabane en différents lieux, mais aussi avec différents utilisateurs. Par exemple, le projet des Baronnies, la cabane va être utilisée l'été sur la montagne de Bannes et sur d'autres lieux. et puis en hiver sur Saint-Mai pour un autre éleveur qui va en hivernage. Et puis on a aussi des projets pour l'automne et pour le printemps, et pas forcément le même éleveur. Voilà. Et on se dit que c'est un beau projet et l'inauguration est prévue pour bientôt, là, la semaine prochaine ou dans 15 jours.
Ces cabanes ne sont pas utilisées du tout par les randonneurs, par contre.
Pas du tout.
On ne confond pas. Il y a les gîtes et, la cabane du berger. Quoi.
J'étais au musée ce matin pour la discussion à deux voix. Et c'est rigolo, oui, parce que nos amis vacanciers ou tout du moins intéressés à la transhumance qui sont là aujourd'hui pour la fête de la transhumance parlent beaucoup de refuge pour les bergers. Eh bien non, le mot qui était utilisé pour nos logements de bergers, c'est cabane pastorale. Peut-être dans la Drôme, on ne parle pas trop de chalet parce que nos cabanes, elles sont pas rudimentaires, mais elles sont pas riches, quoi. C'est pas nos chalets, les chalets d'alpage de Haute-Savoie. Ici, on a des cabanes pastorales adaptées à nos besoins. Et donc, le berger et le randonneur ne sont pas logés au même endroit, tout simplement parce qu'ils ne vivent pas au même rythme. Le randonneur, il va marcher aller à partir de 8 heures, peut-être 7 heures, alors que le berger va s'être levé à 6 heures ou à 5 heures. Et le berger, en début d'après-midi, va avoir besoin de se reposer. Et le randonneur, il a besoin de papoter. Voilà, on n'est pas dans le même rythme. Donc, il ne faut pas loger les bergers avec les randonneurs. Et en plus, je leur fais tout à fait confiance pour se retrouver s'ils veulent parler ensemble.
Un dernier point que je voulais juste, c'était que l'année dernière, vous étiez aussi dans un chantier justement pour créer ces bacs là où l'eau venait se collecter.
Les impluviums.
Les impluviums, voilà. Bon, c'est fini ça ?
Oh, C'est jamais fini. Ça fait 30 ans qu'on y travaille. Hein. Le premier doit avoir à peu près 30 ans. On en a encore un qui se prépare vers le col du Rousset. Enfin voilà, on en fait tous les ans. Mmh. C'est vraiment le mode de récupération d'eau, enfin de précipitation, le plus adapté à nos espaces. C'est-à-dire qu'on récupère l'eau de pluie, la neige, et on la récupère sur la surface de cet impluvium et pas en ruissellement. C'est-à-dire qu'on récupère de l'eau propre et qu'on peut redonner à boire aux bêtes dans des abreuvoirs à niveau constant. C'est-à-dire qu'on comptabilise la quantité d'eau dont on a besoin en fonction du troupeau et on la rend aux animaux. La nouveauté par rapport à ces impluviums, par rapport aux 30 ans passés, c'est que il est important maintenant de tenir compte du fait qu'il y ait des vautours. Vous savez que les vautours viennent nettoyer les alpages quand il y a des bêtes qui meurent. Et le vautour, il a l'habitude, quand il a mangé, de se laver. Et voilà, c'est pas très agréable. Il mange de la bête morte et il vient se laver dans les abreuvoirs ou dans les impluviums.
Du coup, il y a contamination. Ouais.
Et donc là, ça se passe pas bien puisque ouais. Les brebis derrière ne peuvent plus boire. Et donc, pour les impluviums, on est en train de travailler sur une mise en place soit de câbles, soit de protection de l'impluvium pour que le vautour ne puisse plus aller se baigner dans ces impluviums et entre guillemets, pourrir l'eau d'abreuvement des animaux. Et voilà, ça c'est un point nouveau qu'on a à travailler. On le lie en même temps au problème d'évaporation, puisque vous savez qu'on est quand même en marche vers des changements climatiques avec des étés parfois plus secs. Et donc on prévoit que ces films soient aussi anti-évaporation et ça nous permet de garder l'eau. Et entre autres, quand on travaille dans le sud de la Drôme, où c'est plus sec et où il y a moins de précipitations.
L'occasion également de rappeler que les randonneurs ne sont pas invités à se baigner dans les impluviums, ce que j'ai déjà vu faire.
C'est très très dangereux.
En plus, voilà, on a du mal à remonter en général. Bon, il y a une Batucada qui passe à côté de nous, hein, à Speak Groove. Dominique, on peut s'arrêter là. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose là que tu voudrais très très important
mais
à dire?
Non, c'est très bien. Et puis à l'année prochaine.
À l'année prochaine. Quelques liens pour l'ADEME. Hein. On peut voir quand même vos activités, notamment sur Internet.
Alors, il y a un lien qui s'appelle WordPress ADEME. Je le sais pas par cœur, mais oui, voilà, oui. Vous pouvez trouver notre site. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le site de l'Association française de pastoralisme, dans laquelle nous sommes partie prenante. Et voilà.
Et dans le cadre du programme, vous avez proposé quelques trucs. Hein. On peut randonner avec l'ADEME, là.
Oui, on peut randonner avec l'ADEME. Alors, c'est passé, mais il y aura quand même... ça reviendra. Hein. On peut randonner. Et puis, cet après-midi, il y a vraiment des choses intéressantes à 14h au théâtre de Die sur les chiens de protection avec Laurent Garde, qui est un écologue et pastoraliste de PACA, hein, nos voisins avec lesquels on travaille beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Allez-y. Et puis aussi, à 16h, le témoignage d'un maire pour vous dire comment ça se passe avec ses chiens de protection, leurs difficultés. Et voilà. Et aussi un berger qui vous dira comment il vit son travail avec les chiens de protection sur le montagne. C'est du vécu et vous pourrez y poser toutes vos questions. C'est vraiment intéressant de s'y rendre cet après-midi.
Merci Dominique Narbou pour l'ADEME. Et donc, comme tu le disais, à l'année prochaine.
À l'année prochaine. Merci aussi.
Smoking with whipping, drinking, been chatting all the long. We've been running under raindrops, laughing as we can't stop in now. Stop loving you. Always been confident that you'll be my friend until the end. Now where are you? And are you? We've been singing and dancing